Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apatrides Anonymes du 17 octobre 2024 sur choc.ca, édition régulière, beaucoup de contenu local et international en lien avec les phénomènes migratoires, ce qui les provoque, ce qui les engendre et tous les enjeux qui gravitent autour de ces vastes et complexes questions. Racisme, paranoïa, populisme, normalisation des discours d'extrême droite dans l'espace public, entre autres. Les Apatrides Anonymes, c'est votre rendez-vous bimensuel sur choc.ca en rattrapage ou en direct tous les deux jeudis 18h30. On est aussi sur les ondes de Radio Victoria dans la région du Pacifique. Plus concrètement, au menu aujourd'hui pour vous, on a Marie-Ève qu'on retrouve avec les actualités de France et de Tunisie.
Oui, je reviens à mes sujets de prédilection.
Dans tes chaussettes confortables, voilà, mais ce ne sera pas des actualités très confortables.
Non, on est loin des chaussettes chauffantes.
Ouais, France et Tunisie qui, les deux sont plongés dans des psychodrames politiques qui se traduisent un peu par un cauchemar pour les personnes migrantes, racisées.
Effectivement. C'est assez bien résumé, Simon.
Parfait. Toi, tu vas y aller plus en détail un peu plus tard. Mathieu, toi, tu nous as préparé des segments qu'on peut regrouper dans la thématique élargie des droits humains, plusieurs pays dans le monde et plus localement chez les communautés autochtones aussi.
Oui, ben surtout les militants, les enjeux politiques et violation des droits humains serait le bon titre.
Point de vue peut-être environnementaux aussi.
Entre autres, ouais.
Parfait. Et tu vas vraiment nous promener dans 4-5 pays très éloignés les uns des autres.
Exactement. Puis je vais parler aussi des actualités autochtones un peu plus tard.
Super.
Au Québec-Canada. Ouais.
Parfait. On a aussi, comme toujours, des nouveautés musicales assez éclectiques et vers la fin de l'heure, un agenda avec des suggestions d'activités militantes culturelles. Donc voilà, c'est tout pour l'émission, mais pour... On commence ça dans un petit instant. Avant d'aller en France avec Marie-Ève, quelques nouvelles récentes sur les traversées de France vers le Royaume-Uni par la Manche. Quelques événements marquants récents. Évidemment, il y a des traversées tous les jours en différents endroits, mais il y a des moments plus achalandés que d'autres. Par exemple, on va remonter à la fin de semaine des 21 et 22 septembre, qui a vu en deux jours 1424 migrants répartis sur 24 embarcations toucher le sol britannique par la mer. Oui, 1424 en deux jours.
Ça fait beaucoup de circulation à gérer.
Oui, on espère qu'il gère pas trop. Donc, c'est pas nécessairement un record absolu, par contre, pour un seul week-end, mais ce sont des chiffres quand même impressionnants. Et ça nous a fait atteindre le nombre de 25 000 arrivées par la Manche en 2024, une légère augmentation par rapport à 2023. Par contre, on reste en deçà des arrivées records de 2022 pour les arrivées. Parce que pour ce qui est des décès, on en est à 46 actuellement en 2024. C'est un record et il nous reste 11 semaines cette année. Et c'est l'hiver qui commence, qui est généralement, on voit une certaine baisse des départs parce que les conditions sont parfois vraiment impossibles. Mais les gens tentent quand même la traverser et c'est beaucoup plus dangereux. Le nouveau gouvernement dit travailliste de Keir Starmer envisage toutes sortes de mesures, construction de centres de détention, renvoi massif, mise en place d'un commandement d'élite chargé de la sécurité des frontières. Mais ce qui a attiré l'attention dernièrement, c'est une rencontre à Rome du premier ministre Starmer avec son homologue Giorgia Meloni, avec qui il s'est entretenu et dont il a fait l'éloge des politiques migratoires, ce qui a valu à M. Starmer de vives critiques de la part même de proches collaborateurs, parce qu'il y a quand même encore un petit fond socialiste au Labour Party. Et le voir se pâmer devant les politiques d'extrême droite d'une fasciste assumée, disons que ça n'a pas passé très bien dans certains milieux. Selon le Guardian et le Télégraphe, le premier ministre cherche discrètement une alternative au renvoi vers le Rwanda. Et c'est l'entente Italie-Albanie qui l'inspirait le plus ces temps-ci. Donc, on pense que des pourparlers entre Londres et Tirana seraient déjà entamés ou sur le point de l'être, même si cette entente sur les camps de migrants en Albanie avec l'Italie, c'est un plan quand même assez foireux. Sinon, du côté français, mais sur le littoral, depuis la fin septembre, on a une nouvelle brigade nautique qui s'ajoute aux très importants effectifs de surveillance déjà existants. Cette nouvelle brigade sera active dans la baie de la Somme, donc beaucoup plus au sud que Calais. Calais qui est normalement le point d'embarquement habituel vers le Royaume-Uni. Donc cette militarisation accrue autour de Calais a eu comme effet de déplacer assez loin les nouveaux points de départ qui font en sorte que, ce qui fait en sorte que les traversées sont encore plus longues et dangereuses. Pour preuve de ce danger accru, dans la seule journée de samedi dernier, donc le 12 octobre, les patrouilles françaises ont secouru ou attrapé, c'est un terme interchangeable, et ramené sur le sol français 128 migrants répartis dans trois embarcations qui étaient en grande difficulté sur une mer assez agitée. Donc sur ce, Marie-Ève, on reste dans l'Hexagone, dont le gouvernement va bien finir par imploser. Bref, démêle-nous tout ça, s'il te plaît.
Oui, puis tu vas voir que Stammer n'est pas le seul à louanger les politiques migratoires de Giorgia Meloni.
Ah, y aurait-tu des petits fonds fachos à l'Élysée?
À peine, voyons. Ben oui, parce que là, le président Macron a finalement nommé en septembre là, son gouvernement. Et puis, on peut déjà dire qu'en ce qui concerne l'accueil aux personnes migrantes, ben ça regarde mal.
Très mal, oui.
D'abord, ben il y a le nouveau premier ministre, Michel Barnier, ex-commissaire européen et membre du parti de droite Les Républicains. Mm-hmm. Dans un entretien à France 2, fin septembre, il a exposé les grandes lignes de ce que serait sa future politique migratoire. Mais bon, il n'y a pas de grande surprise, là. Ça se résume, disons, à un mot, durcissement.
Get out.
Je le cite, « On va faire des choses pratiques, comme tous nos voisins, pour maîtriser et limiter une immigration qui devient souvent insupportable et qui d'ailleurs conduit à ne pas bien accueillir ceux qu'on accueille chez nous. » Autrement dit, ben, si tout le monde le fait, pourquoi pas nous?
Des solutions pratiques, tu dis, ouais, j'ai hâte de voir ça.
Quelques jours plus tard, il a précisé ses intentions devant le Parlement. Il souhaite d'abord faciliter la prolongation exceptionnelle de la détention des personnes migrantes en situation irrégulière. Ça, c'est pour mieux exécuter ce qu'on appelle les obligations de quitter le territoire français, les OQTF. D'ailleurs, il envisage aussi de conditionner là encore plus l'octroi de visa à l'obtention de laissez-passer consulaires qui sont nécessaires aux reconduites à la frontière vers leur pays d'origine pour les personnes qui se trouvent sous le coup d'une OQTF. Cette mesure-là vise surtout les pays du Maghreb qui délivrent au compte-gouttes ces laissez-passer-là consulaires qui sont, comme je le disais, indispensables au retour. Il veut aussi augmenter les contrôles aux frontières et accélérer le traitement des demandes d'asile. Et il a aussi évoqué la possibilité de négocier avec les pays concernés par des accords bilatéraux, tu vois, tout est dans tout, hein,
comme Angleterre,
conclus
comme
de
Espagne,
longue date, et qui, selon lui, correspondent plus aux réalités d'aujourd'hui. Il faisait référence, entre autres, à ceux signés avec l'Algérie, là, qui facilitent la venue de ressortissants algériens. Et celui qui a été le négociateur du Brexit va avoir comme bras droit au ministère de l'Intérieur Bruno Retailleau.
Ah, un petit nouveau?
Un vieux nouveau, mettons. Figure de la droite dure, conservatrice au sein des Républicains aussi. Il est sénateur aussi. Il est connu pour son mantra « Ordre, sécurité, fermeté ». Vous verrez que Retailleau est pas mal pire que son prédécesseur Gérald Darmanin. C'est un opposant au mariage pour tous et à l'inscription de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, comme on l'appelle en France, l'avortement, dans la Constitution française. Et puis lors des émeutes de juin 2023, il avait établi un lien entre l'immigration, les émeutes et, je cite, « une sorte de régression vers les origines ethniques de la part des deuxième et troisième générations ». Alors, vous voyez que ce monsieur est très, très chic.
Il doit pourfendre le communautarisme là, et d'autres fantômes. Comme
oui,
ça.
Oui. Début octobre, il a expliqué lui aussi sa vision de l'immigration, cette fois sur les ondes de TF1. Je le cite, il a déclaré « Comme des millions de Français, je pense que l'immigration massive n'est pas une chance pour la France ». Bon, donc il se faisait le porte-parole de tous les Français et il a poursuivi en disant que ce qu'ils veulent, les Français, c'est, et je cite, plus d'ordre dans la rue et aux frontières.
Est-ce qu'ils ont vu le résultat de la dernière élection? Je suis pas sûr. Hein?
Comme... je pense même Macron ne l'a pas vu.
Non, c'est ça.
Puis il a demandé aux préfets qui font face à, et je cite encore, des ordres migratoires d'expulser plus et de régulariser moins. Donc, de beaux jours s'annoncent. Il a aussi fait écho à l'intention du premier ministre de négocier des accords bilatéraux. Il a même érigé la politique migratoire de Giorgia Meloni, c'est ça que je voulais dire, de négocier, par exemple, entre autres, là, pour son accord entre l'Italie et la Tunisie, pour tenter de stopper les traversées de la Méditerranée. Mm-hmm. Il s'en est aussi pris à l'aide médicale d'État qui permet à des personnes migrantes en situation irrégulière en France d'avoir accès à des soins médicaux. Il considère évidemment que les sans-papiers viennent en France seulement pour profiter des aides sociales et médicales.
Bien sûr, il occupe pas toutes les jobines que personne veut, ben non.
Non. Et il dénonce évidemment, ben pas évidemment, mais aussi les associations d'aide aux personnes migrantes dans les centres de rétention administrative. En gros, il juge qu'elles sont bonnes affaires là et que les subventions qu'elles reçoivent de l'État sont trop généreuses. Alors, je vous invite à aller lire une série de 4 articles que le site Infomigrant a produit. C'est intitulé « Retailleau sur l'immigration » et ça démontre un à un les arguments du ministre de l'Intérieur, à la fois sur l'aide médicale d'État, les accords bilatéraux avec les pays du Maghreb, les expulsions et sur ce que l'immigration apporte en France. Je vais terminer en revenant sur la situation à Mayotte, puisque début octobre, le nouveau ministre de l'Intérieur a ordonné au préfet de cet archipel français de l'océan Indien d'organiser des vols groupés pour reconduire les ressortissants en situation irrégulière de la RDC, la République démocratique du Congo, dans leur pays. Retailleau a également annoncé des accords de sécurité bilatéraux. C'est le nouveau mot d'ordre en Europe.
Ça sonne bien.
Avec les pays de la zone de l'Afrique des Grands Lacs, là, comme la RDC, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie, pour arrêter les flux de migrants vers Mayotte. Depuis février dernier, il y a 4 vols groupés qui ont été organisés. Et il y en aurait au moins 3 de prévus en octobre seulement, surtout pour vider en partie le centre de rétention administratif de Mayotte. Depuis le 1er décembre 2023, les personnes d'origine africaine représentaient, pas depuis le 1er décembre, pardon, au 1er décembre 2023, les personnes d'origine africaine représentaient 48% des 3000 demandes d'asile déposées sur l'année à Mayotte. En 2022, elle comptait pour 25% des dossiers examinés par la France et près de la moitié des habitants de Mayotte possèdent pas la nationalité française où la population au 1er janvier était estimée à 321 000 personnes seulement sur cet archipel.
Okay.
Faut dire qu'à Mayotte, le réseau d'hébergement des demandeurs d'asile est complètement saturé. Là, ces 600 places sont occupées en permanence. Les migrants et les demandeurs d'asile s'installent donc dans des camps de fortune qui sont régulièrement démantelés, comme dans le cadre de l'opération Wambushu en 2023, dont on avait parlé ici à l'émission. Et ben cette situation-là continue de provoquer des tensions encore aujourd'hui avec la population. Les exilés disent être régulièrement victimes de violences et d'intimidation. Au mois de janvier 2024, les habitants de l'île avaient aussi là, bloqué les principaux axes routiers de l'île principale en protestation. Puis je termine en disant que pour désengorger Mayotte, les autorités françaises ont aussi mis en place un dispositif là, qui permet à toutes les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié d'obtenir un genre de laissez-passer pour prendre l'avion et rejoindre la métropole à condition de pouvoir payer son billet d'avion.
Ben oui, on vient chercher refuge, mais il faut payer son billet d'avion.
Alors, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça commence à... La tendance mode de l'année en Europe sera celle de la chemise brune.
Ben oui, il s'inspire en plus du slogan de Legault d'il y a quelques années.
Ah bon, quel slogan?
Accueillir mieux?
Bon, on va en prendre moins, mais on va en prendre soin.
Ah, c'est, oui, c'était bien tourné, ça, franchement.
Il l'a pas ressorti depuis quelques temps.
Non,
je pense que c'est conseillé.
Parce que là, il veut en prendre encore moins, puis en prendre encore moins soin.
La partie soin avait pas été très concluante.
Non, c'est ça. Mais... dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est le moins.
Oui, moins de soins.
Oui.
Mais merci Marie-Ève. À Mayotte, on dirait que ça n'a pas beaucoup évolué depuis la dernière fois, à part ça s'est enlisé, ça s'est empiré au niveau des violences.
Oui, exactement.
Des
renvois, non, c'est ça. Ben là, on entend, évidemment, on en entend moins parler, là. Mais depuis l'opération Wambushu, mais tu sais, ça continue, là.
Ouais, c'est comme une opération Wambushu permanente, là, on dirait. Ouais. Ben, en tout cas, merci d'avoir...
comme Vigipirate en France.
Oui, c'est ça. En tout cas, merci de nous avoir mis au courant des derniers développements. La France, on dirait que c'est durcissement, mais puissance 2, là, par rapport aux dernières décennies. On va suivre ce nouveau vieux...
ce nouveau vieux Retailleau.
C'est ça. Fait que nous, pour question, on va oublier la France un peu avec un petit genre de punk rock américain. On s'en va en musique avec Buckeye et Cooler Talk. On est pas mal dans les tendances style Riot Girls, punk, post-punk, avec le groupe Buckeye, c'est comme ça qu'on le prononce, de Washington DC. Je vous épelle le nom, B-A-C-C-H-A-E. On entendait la pièce Cooler Talk de leur album paru en avril dernier sur étiquette indépendante Get Better Records, et qui est intitulé Next Time, album qui figure au palmarès international de Choc.
Ça doit être des jeunes.
Oui, assez jeunes, mais qui ont quand même 4 albums à leur actif.
Ah, quand même, je les connaissais pas. Okay.
Une nouvelle toute récente, après 8 ans d'existence, le band a annoncé sa rupture tout récemment, en septembre, sans donner trop d'explications, donc espérez pas de spectacle de Buckeye, mais pour nous, ça aurait été l'occasion de les faire jouer une fois. C'est dommage, je lisais dans le Brooklyn Vegan, parce que je suis très branché.
Ouais, t'es très vegan et Brooklyn.
C'est ça. Que Buckeye, c'est un des rares bands, même dans l'histoire, qui parlait de manière vraiment directe de la dystopie ou du paradoxe d'être un jeune anticapitaliste qui vit et qui a grandi dans la capitale politique de la plus grande puissance capitaliste, et dont le quotidien, c'est les cortèges des leaders et tyrans du monde entier, les lieux ultra sécurisés, les grandes manifs nationales, les mémoriaux partout. Donc, point de vue intéressant, je vous invite à découvrir leur album précédent et porter une attention particulière aux paroles. 2-3 autres nouvelles brèves avant de céder l'antenne à Mathieu, en lien avec les États-Unis, des chiffres récents sur l'immigration à partir de Cuba vers la Floride. Plus de 850 000 Cubains sont arrivés aux États-Unis depuis 2022. Et seulement pour 2024, qui n'est pas terminé, plus de 208 000 Cubains ont demandé l'asile aux États-Unis. À ces chiffres, il faut ajouter la voie régulière qui s'appelle Parole humanitaire, programme avec quota, qui traite environ 50 000 demandes par année. Et il faut aussi ajouter les interceptions en mer, donc des Cubains qui ont pas pu demander l'asile, et le chiffre annuel tournerait autour de 60 ou 70 000. Ce qui fait dire au régime de la Havane que depuis la pandémie, on assiste à la crise migratoire la plus importante dans toute l'histoire du pays, à tel point que depuis 2021, la population cubaine diminue à des taux très faibles. On parle de moins de 1% par année, mais c'est une tendance qui a très rarement été observée dans l'histoire de Cuba. J'ai remonté les chiffres annuels de la population cubaine jusqu'aux années 60, et à part un léger épisode de déclin en 2007 et 2010, ça s'était jamais produit, et cette tendance semble s'installer puisqu'elle s'est confirmée en 2022, 2023 et 2024, si on se fie aux chiffres disponibles, et les diminutions sont plus marquées et semblent mieux installées sur la durée que pour l'épisode de déclin de 2007-2020. À suivre dans les prochaines années. Je ne sais pas si déclin migratoire va continuer.
On avait parlé il y a un an ou deux, c'est ça, la tendance était déjà là. Puis
elle a augmenté selon les chiffres disponibles pour l'instant en 2024.
Les plus récents, là, c'est ça. Mais c'est fou la population de l'île qui diminue. C'est quand même flyé, là.
Oui, c'est même dans le monde, à part des pays ultra
qui ont des catastrophes
comme le Japon, on voit pas ça.
T'sais. Non, non.
Donc, on revient maintenant au Québec dans une autre petite nouvelle avant Mathieu Cadre de nous parler pour une minute avant de retourner à l'international. La Cour suprême a annoncé qu'elle acceptait d'entendre le gouvernement québécois sur l'accès aux centres de la petite enfance pour les enfants de parents demandeurs d'asile qui détiennent un permis de travail. On va enfin trancher cette question une fois pour toutes. Le gouvernement Legault y tient mordicus. Les poupons et les enfants devraient accompagner leurs parents à l'usine de transformation de viande ou rester seuls à la maison, les portes bien barrées. Ou encore, les travailleurs agricoles d'entretien, de manutention, de livraison devraient télétravailler avec leurs enfants à côté. Je rappelle que Québec fait preuve d'acharnement judiciaire et a été débouté 2 fois. Entre autres pour l'effet disproportionné de cette interdiction d'accès au CPE sur les femmes. Bref, la situation actuelle est la suivante. En attendant la décision de la Cour suprême qui prendra, je sais pas combien de temps, ça peut prendre quelques années même, ça se peut quelques mois, quelques années.
1 à 2 ans, disons, ouais.
Donc, en attendant, les parents demandeurs d'asile qui détiennent un permis de travail peuvent envoyer leurs enfants en CPE pour pouvoir profiter de ce permis de travail avec la conscience relativement tranquille. Donc voilà, beaucoup de détours. On est passé de la France à Cuba, au Québec, aux États-Unis. On retourne avec Mathieu à l'international. À la base, on avait Tchad, Portugal, Arabie Saoudite.
Ouais, ça ressemble à ça. Ça va être. On va continuer les détours ou les visites là, à ton goût, un peu ça comme tu veux. On va commencer par au niveau des droits. Bon, on parle des droits humains dans le monde, violation, amélioration, régression. Ben, ça commence mal. Près de 200 défenseurs de l'environnement ont été tués dans le monde en 2023.
200, quand même.
200. Ça, c'est les chiffres qu'on a. Mm. A annoncé l'ONG Global Witness. Environ 85% des 196 meurtres de défenseurs de l'environnement et des droits des terres commis l'an dernier ont été commis en Amérique du Sud. Et Global Witness en recense 79 rien qu'en Colombie. Le nombre le plus élevé depuis que l'ONG a commencé à réaliser son rapport annuel en 2012.
Il n'y a pas quelques entreprises canadiennes dans cette région?
Non. Tu vois de quoi tu parles? Okay. La Colombie doit accueillir en octobre et novembre la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, la COP16, dans la ville de Cali, ce qui inquiète pour la sécurité des participants à ce sommet. Le rapport souligne également le sombre bilan du Honduras qui a enregistré 18 meurtres, soit le ratio d'homicides par habitant le plus élevé dans la liste des pays qui ont eu des militants tués. En Asie, les Philippines restent le pays le plus dangereux avec 17 meurtres de militants pour l'environnement. Global Witness mettant en évidence une tendance croissante aux enlèvements dans la région en Asie. En Afrique, Global Witness n'a enregistré que 4 décès, mais a prévenu que ce chiffre était probablement largement sous-estimé compte tenu de la difficulté à collecter des informations. Mm. En terminant là-dessus, l'ONG dénonce également les législations britanniques et américaines qui prévoient des peines plus sévères pour les manifestants et activistes environnementaux depuis quelques mois, ainsi que les niveaux de surveillance draconiens dans plusieurs pays de l'Union européenne.
Ouais, même qu'on accole l'étiquette de terrorisme à certains groupes environnementaux.
Ouais. Exact, par exemple. Sinon, ben l'Arabie Saoudite a exécuté 198 personnes en 2024 pour le moment. L'année n'est pas finie, mais c'est déjà un record en plus de 30 ans. C'est le pays qui a exécuté le plus grand nombre de prisonniers au monde après la Chine et l'Iran. On le savait déjà, selon Amnesty.
Ouais, dont les chiffres sont pas nécessairement bien connus.
Exactement. Le précédent record était de 196 exécutions en 2022, donc on est déjà à 198 en 2024. Reprieve, une ONG qui fait campagne contre la peine de mort, estime que ce nouveau record montre que l'Arabie Saoudite a renoncé à faire semblant de réformer son utilisation de la peine de mort. Ce nombre toujours aussi élevé d'exécutions contredit les déclarations du prince héritier et dirigeant de l'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman.
Dit le progressiste.
Hein. Oui, qui avait assuré à la revue American The Atlantic en 2022 que son royaume avait éliminé la peine de mort, sauf pour les criminels ou les individus qui mettent des vies en danger. C'est assez vaste. Ce nouveau record d'exécution survient sur fond de hausse du nombre de condamnations à mort dans des affaires de drogue. C'est vraiment le régime rigoriste. Hein? Donc, voilà pour l'Arabie Saoudite. Simon, on s'en va un peu plus vers le sud-est, au Tchad.
Vers le sud-est. OK, parfait.
Au Tchad. À partir d'une petite information, je vous parle d'un sujet intéressant.
Là, on est vraiment c'est les matériaux critiques dans le désert, je crois.
Oui, on peut dire ça, oui. Mais c'est pas mon sujet, par exemple.
Ah,
je
parfait.
Je vais pas te décevoir.
C'est une petite parenthèse.
Le 2 octobre dernier, la police tchadienne a forcé l'annulation d'une conférence prévue dans la capitale, N'Djamena, lors de laquelle il devait y avoir des discussions sur la justice pour les victimes des abus commis sur le régime de Hissène Habré. Puis là, je vous explique, parce que oui. C'est pas un sujet très connu. La décision de bloquer la tenue de la conférence illustre à quel point certains responsables gouvernementaux font la sourde oreille aux critiques de la situation passée des droits humains dans le pays et refusent d'en tirer des leçons, ainsi qu'à leur promesse de compensation aux victimes. Je vous explique, de 82 à 90, le régime à parti unique de Habré a été marqué par des atrocités largement répandues au cours desquelles certains groupes ethniques étaient particulièrement ciblés. En 2001, Human Rights Watch a récupéré les dossiers de la Direction de la documentation et de la sécurité, la police politique du régime, dans lequel figuraient les noms de 1200 personnes tuées ou mortes en détention, ainsi que 12 000 victimes de violations des droits humains. Finalement, Habré a été chassé du pouvoir en 90 par un autre militaire, Idriss Déby Itno, et s'est exilé au Sénégal. Mais en 2016, à l'issue d'une longue campagne par les victimes, un tribunal sénégalais à Dakar, appuyé par l'Union africaine, a condamné Habré à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, y compris violences sexuelles et viols. Lors d'un autre procès, mais au Tchad, un tribunal avait condamné 20 agents de la sécurité du régime Habré pour meurtre et actes de torture. Les deux tribunaux ont ordonné la compensation des victimes à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars. Et là, c'est toujours pas réglé, c'est ça l'enjeu.
Mais le tribunal du Sénégal avait vraiment une légitimité ou...
Aussi, oui, oui, okay. Oui, ça avait été reconnu par l'Union africaine, donc il y avait un côté de tribunal un peu spécial. En février 2024, suite à une réunion entre le président actuel, Mahamat Déby, et trois associations de victimes tchadiennes, le gouvernement a entamé le processus de compensation en versant 16,5 millions de dollars à 10 700 victimes. ce qui fait à peu près 1 500 $ par victime. Là, bon. Cela représente moins de 10% des montants accordés par les deux tribunaux au Sénégal et au Tchad.
Ouais.
Et en plus, en 2017, l'Union africaine avait alloué 5 millions de dollars à un fonds pour les victimes, conformément à une ordonnance de cour, mais le fonds n'est toujours pas opérationnel. Fait que la situation actuelle, c'est que les gens se battent pour qu'il y ait des compensations aux familles et aux victimes.
Mais il y a quelques miettes qui ont été versées, là, si je comprends
c'est
bien.
C'est ça.
Là.
Puis le régime bloque tout actuellement, puis le fait de la répression contre ceux qui réclament compensation. Donc, c'est un peu ça la situation au Tchad, entre autres actuellement. C'est okay. ça que je voulais mettre en lumière aujourd'hui. Et je termine avec une petite nouvelle. On revient en Europe, Simon, puis ça va ouvrir ton prochain micro sur l'Autriche. Uh-huh. Entre 3 et 4 000 personnes venues de tout le Portugal ont défilé contre l'immigration à Lisbonne le 29 septembre.
Ah, j'avais pas entendu parler de ça.
À l'appel du parti d'extrême droite, Chega. Une contre-manif en faveur des immigrants était également organisée, mais était bien cernée par les véhicules de la police. Je cite, « Pas un de plus, pas un immigré de plus. » Le slogan a été plus que largement repris par les manifestants qui avaient répondu à l'appel du parti de Chega. André Ventura, le leader du parti, acclamé comme une vedette rock, a à nouveau réclamé l'instauration de quotas afin de limiter l'impact de l'immigration. Je le cite, « Nous sommes confrontés à une immigration incontrôlée avec entre 10 et 15% d'immigrés. » Là, je sais pas si c'est le nombre actuel ou l'augmentation dans la dernière année, c'est pas clair.
Peut-être que lui, il sait pas trop ce qu'il dit.
C'est ça, mais faut les citer quand même, parce que là, ils se disent des choses vraiment intéressantes. Ceux qui viennent du Maroc, de la Syrie, du Népal et de l'Inde, ce n'est pas à cause d'une guerre, mais ils viennent en Europe. C'est ce qui se passe ici, en Italie, en Grèce, en Espagne. Soit on y met fin, soit un jour, il n'y aura plus de pays ni de frontières, a-t-il déclaré. C'est un anarchiste, finalement, c'est ça, ouais.
Non, mais c'est pas ça qu'il veut, c'est ça qu'il craint. Mais est-ce qu'on sait si la contre-manif était importante? Ou...
Oui, un petit peu moins, mais elle était importante quand même.
Au moins, c'était un peu moins.
Mais j'ai pas les chiffres, j'ai pas les chiffres officiels. En terminant, ben le parti de Chega, aux législatives de l'hiver dernier, a fait 18% au Portugal, et aux européennes de cette année, où l'extrême droite a été forte, ils ont fait seulement 10%. Fait que, bon, c'est le parti d'extrême droite portugais, mais c'est pas, ils sont loin du pouvoir pour l'instant.
Ouais, mais on dit ça dans les autres pays, puis on voit les montées fulgurantes, donc oui. Il faut s'inquiéter.
Ah, tout même. À fait, tout à fait. Mais au Portugal, il y a un bon fond antifasciste aussi, quand même. Donc,
comme partout.
Mais c'est particulier, parce que j'entendais un reportage à Radio-Canada cette semaine qui disait que le Portugal est en fait en train de se vider des jeunes, là.
Ouais.
Qu'il y a une émigration massive.
J'ai entendu le même reportage, oui, effectivement.
Des jeunes, là, tu sais, dans d'autres pays, soit d'autres pays européens, puis que le Portugal avait jamais eu un taux de chômage aussi bas, notamment, puis ils sont pas capables de trouver la main d'œuvre, là, tu sais, pour parce que les jeunes quittent massivement. Là.
Donc, il va y avoir de plus en plus d'immigrants qui vont venir travailler, c'est sûr.
Oui, c'est sûr. C'est...
Puis les chambres de commerce portugaises vont faire de la pression. Enfin.
Bref.
Ben, écoute, oui, donc, des élections portugaises. Ensuite, comme tu disais, je vais parler d'élections autrichiennes. Marie-Ève va parler de...
Les élections tunisiennes.
En Tunisie. C'est ça. Donc, ouais.
Si on peut appeler ça une élection.
Ceux qui n'aiment pas les élections, ben, skipper les prochaines 15 minutes.
Non. Il y a de la bonne musique qui s'en vient, là.
Ben, d'ailleurs, on s'en va à une mini pause musicale et on vous revient dans un instant. Donc, on disait, il y a eu des élections générales en Autriche fin septembre et le parti qui a remporté le plus de voix et de sièges est le FPO, ou Parti de la Liberté, dirigé par Herbert Kickl. Une première dans l'histoire autrichienne, le parti d'extrême droite fondé en 1955 carrément par des anciens nazis est passé de 16% d'appui populaire aux dernières législatives de 2019 à 29% au scrutin d'il y a 3 semaines. Une progression aussi fulgurante qu'inquiétante, sachant les éléments radicaux qui composent une grande partie de la base et de la députation du FPO, qui pour certains se réclament ouvertement du suprémacisme blanc et du néonazisme. On fait notamment la promotion des déchéances massives de nationalité. Les migrants, les immigrants, les personnes racisées entrevoient l'avenir en Autriche avec une certaine noirceur et la communauté qui a le plus à craindre, ce sont les musulmans, qui sont évidemment le plus souvent la cible des nazis. Mais évidemment, on est encore loin du pouvoir. Pour l'instant, tous les autres partis qui ont obtenu un minimum de voix pour être présents au Parlement refusent de même s'asseoir à la table des négociations en vue de former une coalition gouvernementale. On les considère indésirables.
Infréquentables, c'est ça.
Un peu comme on voyait aux Pays-Bas l'année passée. D'ailleurs, ouais. Je suis même pas au courant si on réussit à former une coalition. Je crois que oui.
Oui, mais les gouvernements de coalition aux Pays-Bas, ça...
Ça tient pas fort. Donc, élection peut-être bientôt aux Pays-Bas aussi. Il est donc pas exclu à l'heure actuelle qu'un gouvernement puisse se former sans membres du FPO, Parti de la Liberté. Mais ce seront des négociations difficiles, chacun des autres partis s'accusant mutuellement de ne pas avoir la légitimité nécessaire pour diriger une telle coalition. Donc, ça pourrait encore prendre quelques mois avant qu'on sache exactement où on s'en va. Il y a aussi toutes sortes d'outils constitutionnels et légaux qui sont à la disposition de la chancellerie et des parlementaires pour faire barrage aux partis d'extrême droite. Il faut dire qu'il y a une alternance en Autriche à peu près aux 2 ans entre élections présidentielles et législatives. Donc, à la chancellerie, il n'y a rien qui change suite au scrutin de septembre dernier. Par contre, le chancelier actuel est Karl Nehammer, désolé pour les prononciations, du Parti populaire autrichien, qui est aussi un parti de droite et passablement beaucoup à droite quand même. Bref, toutes sortes de scénarios sont à l'étude actuellement, mais ça reste une victoire assez décomplexée de l'extrême droite qui suit les tendances qu'on voit ailleurs, comme avec le Rassemblement national en France, qui normalise son discours en ratissant plus large, qui courtise les classes populaires, les jeunes, les femmes et même des électeurs d'origine diverse, mais bien ciblés, en augmentant son pouvoir d'influence au point que même si le FPO n'arrive pas à être membre de la coalition à former, il pourrait imposer une partie de son programme sur l'agenda politique des prochaines années. Peut-être que tout aurait été tellement plus simple si les Autrichiens avaient voté pour le Beer Partei, le parti satirique de la bière, mais ils ont été moins de 2% à lui accorder leur vote, donc aucune présence au Parlement pour ce parti fondé par Marco Pogo, chanteur du groupe punk viennois Turbo Beer. Et peut-être tant mieux, parce que ce parti a perdu beaucoup de son attrait avec ses positions fantaisistes progressivement mises de côté et un alignement sur la droite de plus en plus évident.
Donc, non.
Notamment avec, entre autres, une position très ferme sur le contrôle des migrants ou encore l'appui aux réformes du travail qui repoussent l'âge de la retraite. Comme quoi, les punks, ça vieillit aussi.
Ça vieillit mal, surtout.
Ça vieillit mal, parfois. Et ça en dit long sur l'extrême droitisation de l'Autriche qui semble s'aligner de plus en plus sur son voisin hongrois. Autre élection récente de l'autre côté de la Méditerranée, Marie-Ève, situation quand même fort différente, résultat tout aussi indigeste, on peut dire.
Oui, toujours, c'est parce qu'il y a eu les élections présidentielles en Tunisie le 6 octobre et l'issue de ces élections est effectivement pas plus réjouissante qu'en Autriche. En revanche, elle était beaucoup plus prévisible.
Ben, on s'attendait, oui, effectivement.
Le président sortant, Kais Saied, accusé par la société civile de dérive totalitaire, a été réélu pour un deuxième mandat à une majorité écrasante de 90,7%.
Il est populaire, hein?
Oui. Faut dire que Kais Saied avait que 2 adversaires. Hein. Tous les autres candidats avaient été éliminés et parmi les 2 candidats rescapés sur 17.
Quand tu dis éliminés, qu'est-ce que t'entends?
Mis de côté, non. Okay, okay. Faut ne pas prendre mes mots dans leur sens littéral.
D'accord.
Donc, parmi les 2 candidats rescapés sur 17, ben il y en a un qui est en prison. Le député Ayashi Zamel, un chef d'entreprise de 47 ans qui a créé le petit parti libéral Azimoun. Bref, rien de surprenant dans ce pays où plus de 70 figures de l'opposition sont en prison, mais aussi des syndicalistes, des avocats, des chroniqueurs politiques et des défenseurs des droits des personnes migrantes.
Beaucoup en exil, j'imagine aussi.
Oui. Ce qui faisait dire à tous les experts que le résultat était joué d'avance, étant donné que Saied contrôlait totalement le scrutin. Parce qu'il faut le dire, Saied passe son temps à dévaloriser le principe de la démocratie parlementaire, et c'est pas parce que c'est un anarchiste.
Ah non? tu m'étonnes.
il n'y croit pas, et selon plusieurs experts, ces élections-là étaient une étape supplémentaire dans ce qu'il appelle l'entreprise de redressement de la Tunisie face à une classe politique qu'il considère comme corrompue. Uh-huh. On peut se demander pourquoi les Tunisiens qui ont fait la révolution de 2011 laissent faire... à la fois cette répression-là et l'autoritarisme présidentielle, mais...
Bon, des questions économiques, j'imagine. Beaucoup,
ben, pas que. D'abord, il y a plusieurs experts qui s'entendent pour dire que il y a un climat de peur, d'autocensure, pour ne pas dire même de surveillance, qui se réinstalle progressivement en Tunisie, qu'on avait vu un peu s'amoindrir dans les années qui ont suivi la révolution, mais là, ouais, c'est vraiment en train de se réinstaller. Mais on pointe aussi du doigt le complotisme et le conspirationnisme. C'est que tous les discours du président accusent ou désignent chaque jour un complot de l'étranger différent. Toute personne qui a des contacts avec des journalistes étrangers ou des ONG étrangères est soupçonnée de représenter ou en tout cas de conspirer contre le président. Bref, ça se traduit dans le fond par une certaine résignation dans la population.
Okay.
En témoigne d'ailleurs le record d'abstention aux élections. Le taux de participation a été d'à peine 29%. Saïed a donc obtenu les suffrages d'un peu plus de 2,4 millions d'électeurs sur 9,7 millions de personnes inscrites. Fait que
c'est pas vraiment une vraie majorité.
Non. En fait. À titre de comparatif, en 2019, il avait obtenu 73% des voix, donc beaucoup moins que cette année, pour un taux de participation de 58%. Ce sont surtout les jeunes qui ont déserté les urnes avec 6% de votants dans la tranche d'âge de 18-35 ans. Comparativement à une participation de 65% chez les 36-60 ans. Mais il faut dire aussi que le taux de chômage chez les 18-24 ans avoisine les 40%, fait que...
C'est énorme.
C'est ça. On reste en Tunisie, mais sur un tout autre sujet, là, la Commission européenne demande aux autorités tunisiennes de déclencher une enquête suite à la publication d'un article du journal The Guardian, dans lequel des femmes migrantes confient avoir subi des violences sexuelles, dont des viols, par les forces de l'ordre tunisiennes.
Mais il va dire que c'est un complot de l'étranger, encore une fois.
Probablement, oui. Le quotidien affirme aussi, ben encore plus avec ce que je vais dire là, c'est que le quotidien affirme que les officiers collaborent aussi avec des passeurs pour organiser des traversées de la Méditerranée.
Mm.
Ces histoires-là viennent encore une fois alimenter la controverse là face à l'accord migratoire signé en 2023, entre la Tunisie et l'Union européenne. Elle qui a versé au pays un montant de 105 millions d'euros à ce jour. En mai dernier, la Commission européenne avait aussi dû se défendre après une autre enquête journalistique documentant la manière dont des dizaines de milliers de migrants ont été arrêtés, abandonnés en plein désert au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie. Ça aussi,
ouais, on s'en souvient.
On vous en parle aussi régulièrement à l'émission. Puis de son côté, ben, Info Migrants a reçu plusieurs témoignages faisant état des conditions déplorables dans lesquelles les exilés vivent en Tunisie. Chassés des centres-villes, une grande partie qui sont installés dans des camps informels le long d'une route reliant Sfax à Jebeniana, dans le centre du pays. Puis sans aucune assistance de l'État, sans eau potable, ni toilette ou sanitaire, et dans un climat de violence de plus en plus alarmant, de nombreuses personnes ont été blessées à l'arme blanche ou à feu lors d'affrontements communautaires ou par des Tunisiens, et d'autres souffrent de maladies graves telles que le choléra ou la typhoïde. En avril 2024, la médiatrice de l'Union européenne, Emily O'Reilly, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la manière dont la Commission s'assure du respect des droits de la personne en lien avec son accord avec la Tunisie. Ces conclusions-là sont attendues là, dans les prochaines semaines, fait que ça va être à surveiller. Et je termine rapidement avec une courte nouvelle là, qui concerne l'arrestation de 12 personnes de nationalité tunisienne pour leur implication dans le départ et le naufrage le 30 septembre d'une embarcation de migrants en mer Méditerranée au large de l'île touristique de Djerba, qui est au sud de la côte tunisienne,
okay,
et qui a coûté la vie à 15 personnes, dont 4 femmes et 3 bébés. 31 autres personnes avaient été secourues par les autorités. Les gardes-côtes avaient été alertés par 4 passagers revenus à la nage sur le rivage. Et les recherches se poursuivent là actuellement parce que, selon des médias locaux, il y aurait eu au moins 60 personnes à bord. Donc là, si on fait le compte rapidement, il en manque quelques-uns.
Probablement décédés.
Probablement, oui.
Des personnes d'origine diverse, j'imagine, ou
beaucoup d'Afrique subsaharienne.
Okay, okay.
Principalement d'Afrique subsaharienne, oui.
Parce qu'on sait que les Tunisiens fuient aussi à bord de l'embarcation, donc tu as un mélange un peu de tout ça.
Oui, beaucoup d'Afrique subsaharienne, c'était...
Merci beaucoup, Marielle, pour cette mise à jour des dernières nouvelles tunisiennes. On va prendre une petite pause musicale. On est toujours aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. Local cette fois, Alias ou Emmanuel Alias, multi-instrumentiste, compositeur, réalisateur de Montréal, qui dit s'inspirer à la fois du psych rock et du dance punk. On écoutait Old Man de l'album Embrace Chaos, qui est le dernier d'une lignée de plusieurs albums, singles et collaborations. C'est actuellement palmarès local de Choc. Alias roule pas mal à l'international, des dizaines de dates prévues en France et au Royaume-Uni, mais une seule en Amérique du Nord, le 12 décembre à Drummondville. Donc, Marie-Ève nous disait « mélange de Idols et New Order ». Je suis plutôt d'accord, quand même.
Joy Division, pardon.
Avez-vous entendu parler de ce projet de musée national de l'histoire du Québec à Québec?
Ben moi oui, mais pas tout le monde, je pense.
Mais je vais vous en parler. Là où une visite va nous convaincre que notre histoire commence avec Champlain, tel que l'exige mon oncle Legault. Les représentants des communautés autochtones essaient de se faire entendre et de lui dire à Legault et sa gang qu'ils existent et que leurs nations font partie de l'histoire collective et que ça doit être reflété dans les collections qui seront présentées. Et que les Autochtones doivent faire partie des équipes qui vont déterminer les orientations du musée et monter les expositions. C'est pas la première fois que ces revendications sont nommées. Ce projet-là est annoncé depuis assez longtemps, mais ça a été répété de manière plus formelle récemment avec le dépôt d'un mémoire dans le cadre du projet de loi 64 qui vise la création du musée. mémoire co-signée par l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, le Conseil en éducation des Premières Nations et l'Institut Tchakapesh. Disons que c'était mal parti avec les déclarations de Legault, de son ministre Lacombe et surtout Éric Bédard, l'un des historiens désignés par le gouvernement pour siéger sur le comité scientifique du musée, qui avait pondu une belle perle colonialiste en associant les communautés autochtones à notre préhistoire.
Oui, la préhistoire.
Ben oui. Monsieur Bédard fait toujours partie de ce comité scientifique. Donc voilà, Mathieu.
Un grand illuminé.
Oui, ben qui nous illumine de son savoir et de sa sagesse.
Comme Maisonneuve et Jeanne Mance à l'époque.
Oui, les évangélisateurs.
De Montréal.
De Ville-Marie, voilà. Donc, ben c'est ça, ça met la table pour toutes plusieurs actualités autochtones.
Oui, tout à fait. Nous. Oui, oui, ben oui, Simon, je reviens sur les enjeux de réconciliation des pensionnats à travers différentes nouvelles. Ben, peut-être vous dire que plusieurs milliers de personnes habillées en orange ont défilé dans le centre-ville de Winnipeg le 30 septembre dernier afin de commémorer la sombre histoire des pensionnats pour autochtones au Canada. Mm-hmm. Et c'est vraiment au Manitoba où ça se passe beaucoup, les luttes autochtones actuellement. Ça participe aux actions, c'est assez impressionnant.
Oui.
Je rappelle que selon le Centre national pour la vérité et la réconciliation, au moins 4100 enfants sont morts dans les pensionnats, mais ce serait beaucoup plus. Au Manitoba, le 30 septembre est maintenant un jour férié pour la première fois cette année.
Seule province où qui a un jour férié avec en l'honneur
avec le fédéral, évidemment, qui a un férié. Le premier ministre de la province, Webb Keneu, a déclaré lors du powwow qui suivait la marche que cela signifie que chaque enfant, chaque parent, chaque famille, a le temps en cette journée d'honorer les survivants. On rappelle aussi que déposé en 2015, le rapport final de la commission Vérité et Réconciliation contenait 94 appels à l'action et que seuls 15% d'entre eux ont abouti pour le moment.
Peut-être quelques-unes en cours de
débutées, en cours, bloquées. Il y avait un bon article d'ailleurs qui les détaillait sur l'espace autochtone autour du 30 septembre.
Okay.
Le 27, quelques jours avant, la députée néo-démocrate de Winnipeg South, Lee Gazin, a déposé à la Chambre des communes un projet de loi visant à criminaliser le fait de cautionner, de nier, de minimiser ou de justifier le système des pensionnats pour autochtones au Canada, ainsi que celui de dénaturer les faits à leur sujet. Elle soutient que la criminalisation de tels discours publics contribuerait à mettre fin aux préjudices subis par les survivants des pensionnats, à leurs familles et leur communauté. Si le projet de loi d'initiative parlementaire était adopté, des personnes pourraient être accusées en vertu du code criminel d'avoir fomenté volontairement la haine contre les peuples autochtones par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée. Les contrevenants seraient passibles d'une peine maximale de 2 ans de prison. L'interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes, Kimberly Murray, réclame depuis longtemps l'intervention du gouvernement pour endiguer la vague de ce qu'elle appelle le négationnisme sur les pensionnats pour autochtones. Dans un rapport publié en juin 2023, elle évoquait les attaques croissantes des négationnistes qui défient les communautés lorsqu'elles annoncent la découverte de possibles tombes anonymes autour des anciens pensionnats. Madame Murray cite plusieurs exemples, notamment après l'annonce en mai 2021 par la nation Tinglut-Tsegwikem qu'un radar à pénétration de sol avait découvert ce que l'on connaît maintenant comme les 215 tombes anonymes sur le lieu de l'ancien pensionnat de Kamloops. Kimberly Murray soutient que la Première Nation a dû faire face à des négationnistes qui sont entrés sur le terrain sans autorisation. Certains sont venus en pleine nuit munis de pelles. Ils ont dit qu'ils voulaient voir par eux-mêmes si les enfants étaient enterrés là. Ça, c'est arrivé à quelques reprises.
C'est parce que c'est un travail qui est extrêmement délicat. Et
oui,
et
puis une pelle en pleine nuit, non, ça marche pas comme ça.
Il y a des protocoles, là, quand même.
L'année dernière, la députée Gazin, qui vient de déposer le projet de loi, a présenté une motion aux communes reconnaissant que le système des pensionnats autochtones était un acte de génocide. La motion avait été adoptée à l'unanimité par tous les partis au niveau de la Chambre des communes. Sinon, ben, la même interlocutrice spéciale indépendante dont je vous parlais, Kimberly Murray, demande au Canada de se conformer à certaines de ses obligations envers les Autochtones et estime qu'il s'est offert sa propre amnistie en ne lui accordant aucun pouvoir à elle, comme interlocutrice. Son mandat, parce que c'est pas très connu comme rôle, elle travaille en étroite collaboration avec les représentants autochtones, les familles et les survivants en vue de cerner les mesures requises et de recommander l'établissement d'un nouveau cadre juridique fédéral visant à assurer le traitement et la protection de manière respectueuse et adaptée à la culture des tombes et des sépultures anonymes. Et je la cite, elle est en entrevue à l'espace autochtone dans le cadre de la journée du 30 septembre. Le gouvernement doit continuer d'offrir du financement pour que les communautés et les organisations puissent rassembler les survivants, mais ils doivent aussi les soutenir dans leur demande d'accès aux archives par rapport aux recherches sur le terrain ou encore soutenir les familles qui veulent faire des exhumations. Le Canada n'a pas de législation pour protéger les lieux de sépulture des peuples autochtones, ni de stratégie, ni de loi pour encadrer le rapatriement des restes humains. Il y a donc beaucoup de choses que le Canada doit faire et qui sont conformes à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dont il est signataire. parce que Mme Murray, son mandat finit actuellement, puis elle n'est pas remplacée. C'est une espèce de poste spécial qu'il y a eu pendant 2 ans pour aider.
Et on prévoit pas, on prévoit la remplacer, mais on ne sait pas ce sera qui.
Non, il n'y a pas de remplacement, c'était 2 ans, c'est tout.
Et ce qu'elle nous dit, ça reste au stade des recommandations.
Voilà, okay. Je la cite en terminant là-dessus. Dans mon rapport final, je fais des recommandations sur ce qui est nécessaire pour poursuivre le travail que j'ai commencé. Il est évident que la première chose est de mettre en place un dispositif qui permette de soutenir les communautés, mais avec des pouvoirs supplémentaires. Je ne pouvais pas obtenir des dossiers, je ne pouvais pas pénétrer dans les propriétés privées, je n'avais pas le pouvoir d'obliger qui que ce soit à me parler. Tout ce que j'avais, c'était le pouvoir de communication. Nous avons donc besoin de mécanismes plus sérieux, plus solides. Le Canada a créé ce mandat, m'a nommé et ne m'a pas donné des pouvoirs, beaucoup de pouvoirs, et c'est en quelque sorte la façon dont il se protège. Cela fait partie de l'amnistie qu'il a créée pour lui-même. Donc, c'est sa conclusion.
Je sais pas quel titre ou quel statut faudrait donner à la personne qui va remplacer pour qu'elle ait plus de pouvoir. Mais...
peut-être que ça, tu sais, comme le protecteur du citoyen, par exemple, exact. Ça pourrait être le protecteur des Premières Nations, je sais pas.
Ou un commissaire spécial, permanent.
C'est ça qui a un pouvoir carrément judiciaire ou de contrainte, ouais. Là.
Exactement. Ouais. Puis, pour finir sur les pensionnats, une déclaration sur les médias sociaux de la candidate du Parti progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick, Sherry Wilson.
J'ai comme peur de ce que je vais entendre.
Oui, tu vas avoir peur, tu vas être effrayé. Donc, elle a fait une déclaration à l'occasion de la journée du 30 septembre. Ça a fait bondir plusieurs personnes. Elle y compare les souffrances des parents dont les enfants ont été envoyés dans les pensionnats pour autochtones avec la situation des parents au Nouveau-Brunswick à qui on cache des informations importantes reliées au développement de leurs enfants dans les écoles. C'est une rengaine du chef Blaine Higgs, donc le gouvernement a mis en place l'an dernier la politique 713 sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle et qui impose aux établissements scolaires d'informer les parents si un élève de moins de 16 ans veut utiliser un prénom ou un pronom différent que celui qui lui a été accordé à la naissance.
Oui, parce qu'il va rendre tous ses petits camarades homosexuels ou transgenres.
Par exemple. Dans une lettre publiée, la candidate écrit qu'à l'époque des pensionnats autochtones, le gouvernement plaidait que les parents étaient nuisibles à leurs enfants et que les écoles résidentielles devaient changer la culture, leur culture et leur mode de vie. Un beau parallèle qu'elle a fait. Les chefs des nations Wolastoqui et Mi'kmaq appellent à son retrait suite à ses propos épouvantables et réclament que le parti se désolidarise de ses propos. Mais elle est toujours candidate aux élections qui ont lieu lundi prochain au Nouveau-Brunswick.
Et elle va sûrement gagner. Quel est son nom à cette charmante?
Elle s'appelle Sherry Wilson dans la circonscription d'Albert Riverview.
Bon,
Parti conservateur.
Est-ce qu'on l'envoie paître?
Est-ce que je peux suggérer 2-3 lectures en terminant?
Vas-y.
Des articles autour de l'enjeu de la réconciliation. Un article s'appelle « Et sinon, la réconciliation? » Espace autochtone, 30 septembre dernier. Le concept de réconciliation a plusieurs significations selon les personnes, les communautés, les organismes. Qu'en est-il pour les survivants des pensionnats?
Parfait.
À qui bénéficie la réconciliation économique? Un article d'Espace autochtone aussi le 4 octobre. Des projets conjoints à petite échelle au partenariat économique structurant de millions de dollars. Les efforts de réconciliation économique sont souvent salués comme des incarnations d'un grand renouveau des relations entre autochtones et allochtones. Cependant, aucun cadre clair ne régit cette réconciliation. La bonne volonté des gouvernements et des entreprises a-t-elle ses limites? Et en terminant...
Le titre encore?
À qui bénéficie la réconciliation économique?
Merci.
Et sur Pivot du 30 septembre, journée de la réconciliation, confronter les résistances institutionnelles. Une seule phrase, les institutions nomment des personnes autochtones pour mener la réconciliation, mais leur mettent ensuite des bâtons dans les roues pour effectuer le travail. Donc, un article de Pivot du 30 septembre sur les institutions et la réconciliation.
Merci beaucoup, Mathieu.
Merci, Simon.
Avec toutes ces informations, on a besoin de quelques coups de casserole.
Tout à fait.
C'est Casserole qui annonçait l'agenda. J'ai pour vous 2 événements et 2 ressources en ligne à consulter quand vous voulez. Je commence avec les événements demain soir pour qui nous écoute en direct. Ce sera donc le vendredi 18 octobre. C'est la 35e édition de la Nuit des Sans-Abris avec comme thématique cette année l'itinérance sans visage, sans comme dans le nombre 100. Pour rappel, c'est quoi la Nuit des Sans-Abris? Je vous lis la description officielle. C'est un événement de sensibilisation à la situation d'itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale qui concerne de plus en plus de Québécois et de Québécoises. Depuis 1989, chaque troisième vendredi d'octobre, des personnes passent la nuit dans la rue en signe de solidarité avec ceux et celles qui y vivent. Dans des conditions précaires et souvent intenables, l'événement vise aussi à donner une voix à ces personnes, à démystifier les réalités autour de l'itinérance, mais aussi à déconstruire les préjugés et à créer un espace de mixité sociale. C'est organisé par une coalition large d'organismes de soutien à la population qui est en situation d'itinérance à travers le Québec. Et il y a 60-70 événements, je ne les ai pas comptés, il y en a vraiment beaucoup dans autant de villes québécoises qui parfois s'étalent sur plusieurs jours, parfois seulement sur le 18 octobre. Ça prend la forme de marches de solidarité, d'ateliers de sensibilisation, de prise de parole, des prestations musicales, des bibliothèques vivantes, des karaokés. Ça peut vraiment être très varié. Alors, pour savoir où, quoi, comment, quand, selon votre région, on consulte itinérance.ca.
Et les gens peuvent passer la nuit là, avec les gens de la rue puis les groupes communautaires.
Et oui, et parler à des gens qu'on côtoie tous les jours et à qui, dont on évite le regard même souvent.
Exact.
Ça. Deuxième événement dont je voulais vous parler, c'est une exposition au musée McCord au centre-ville de Montréal, nouvellement musée McCord-Stewart. L'exposition « À toutes ces femmes que l'on ne nommait pas » de l'artiste et commissaire indépendante Michaëlle Sergile, c'est un hommage au vécu des femmes noires des années 1870 à 1910 à Montréal. Madame Sergile a réalisé 7 tissages originaux, 3 reconstituent des images choisies dans la collection photographique du musée. Et les 4 autres sont des portraits tissés de membres du Colored Women's Club of Montreal. Et l'exposition est complétée par des objets et des photographies d'archives qui proviennent à la fois des collections du musée McCord-Stewart et du Colored Women's Club of Montreal. L'exposition est présentée jusqu'au 12 janvier 2025 et on trouve toutes les informations dans le site du musée. Je vous parlais de ressources en ligne. La première dont je vais vous parler, ce sont des témoignages et le résultat d'analyse de ces témoignages de femmes sous forme de rapport d'une 60aine de pages en format PDF qui a été publié par la Table des groupes de femmes de Montréal, la TGFM. C'est le fruit d'un gigantesque travail, un sondage auprès de 540 femmes ou personnes se désignant ou étant perçues comme femmes qui nous parlent de profilage, de leurs interactions avec les services de l'ordre, que ce soit des constables spéciaux, on pense au métro, des agents de services de police ou d'agences de sécurité privées. On trouve aussi des témoignages audio. Plusieurs thématiques sont abordées, par exemple, santé mentale et perte de confiance envers les institutions, profilage de genre et transphobie, travail du sexe et rapport aux forces de sécurité ou encore répression politique. On trouve dans le site des tonnes de citations choc. Je vais vous en lire une. La police de Schlaga face à la violence conjugale va pas t'aider parce que tu as absolument besoin d'avoir la face pleine de bleu pour que quelqu'un te prenne au sérieux. On trouve aussi dans le site une section « Besoin d'aide » où sont regroupées plusieurs ressources pour personnes victimes de telles discriminations et de telles violences. Tout ça, incluant le rapport de la TGFM, se trouve dans le site suivant « sousleradar.ca ». Dernière ressource en ligne et suggestion à l'agenda, c'est aussi un rapport très récent, mais cette fois sur la situation non plus seulement Israël-Gaza, mais Israël contre le Moyen-Orient ou Israël contre le monde au complet.
Mm-hmm.
Le rapport se penche surtout sur l'aide, si on peut appeler ça comme ça, du Canada aux victimes du massacre actuel. C'est publié par Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient et le titre est « Destiné à l'échec, le racisme systémique anti-palestinien et le programme canadien de visa de résident temporaire pour Gaza ». On le sait, ce programme fédéral d'accueil temporaire, quasi entièrement défrayé par des proches de résidents de Gaza vivant au Canada, c'est une coquille vide conçue pour ne pas fonctionner, juste pour nous donner un petit vernis humanitaire. Pour mieux comprendre ce programme spécial et illustrer son dysfonctionnement programmé, on le compare dans le rapport à celui qui était destiné aux victimes de la guerre en Ukraine, ce qui permet de constater les disparités entre les deux programmes. On passe en revue la liste assez hallucinante d'interdictions, de critères d'éligibilité, d'exigences bureaucratiques et de contraintes de toutes sortes, et on analyse le traitement médiatique réservé à ce programme d'accueil qui n'en fut pas un, puisque depuis le lancement du programme, il y a maintenant 10 mois, malgré 4000 demandes acceptées, seulement 334 personnes sont arrivées au Canada. Mmh. C'est une information transmise cette semaine par le gouvernement canadien.
Ouais,
parce qu'il y a une annonce d'aide financière aux gens qui seraient arrivés ici. Il y a des journalistes qui en ont profité pour demander à Mark Miller... Combien, finalement? Il a été honnête, il a dit 334. Le rapport « Destiné à l'échec » peut être consulté dans le site de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient. Le site, c'est cjpme.org. C'était l'épisode du 17 octobre 2024 des Apatrides Anonymes sur choc.ca. Je vous laisse nos coordonnées. Le courriel, c'est apatridesanonymes, tout au pluriel, à resist.ca. notre site web apatridesanonymes.info où vous trouverez tous nos épisodes en rattrapage ainsi que sur choc.ca évidemment. On salue nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent sur les ondes FM de Radio Victoria sur l'île de Vancouver et au-delà. Je sais pas jusqu'où se rendent les ondes. Je sais même pas si ça se rend jusqu'à Vancouver. Je serais surpris.
Ouais, je serais surpris aussi, ouais.
On va écouter une dernière pièce, Salaka Bien de Cococo, un collectif à la fois traditionnel et expérimental, électronique et acoustique de Kinshasa, Congo, avec des instruments parfois fabriqués de toutes pièces, dont ici beaucoup de pots en céramique en guise de percussion. Selon Philippe Renaud du Devoir, on discernerait la touche particulière du réalisateur breton Xavier Thomas, alias Desbruits. Leurs paroles à Cococo sont très politiques. Elles sont chantées, entre autres, en français, en Kikongo, en Lingala et en Swahili. Leur album Boutou, qui est aussi au palmarès de Choc, palmarès international, évidemment, est paru en juillet dernier sur l'étiquette britannique Transgressive Records. Ils étaient en spectacle au Belmont, à Montréal, en avril dernier. Donc, je crois pas qu'on les voit de sitôt.
On les a manqués. Ouais.
On les a manqués, c'est très bon. Donc, c'était Simon à l'animation pour cette fois-ci. Je remercie mes deux comparses, Marie-Ève et Mathieu. Merci beaucoup.
Merci, Simon, pour l'animation, le choix musical.
Oui, merci aussi. Merci à vous deux.
Merci. Merci, votre contenu local international. Toujours à la fine pointe de l'actualité.
Oh oui.
Et on vous remercie.
Non, vous réussissez. Et on vous remercie, tout le monde, de nous avoir écoutés. On vous retrouve dans deux semaines, le jeudi 31 octobre.
Oh, avoir des bonnes nouvelles le 31 octobre.
Je sais pas si Mathieu va se déguiser, on pourrait se mettre en Twitch.
En personnes qui font peur.
C'est ça. Donc, à 18, ce sera à 18h30 pour qu'ils nous écoutent en direct pour des nouvelles toujours aussi terrifiantes. Donc, bonne soirée Marie-Ève, Mathieu, bonne soirée tout le monde. On écoute Cococo et portez-vous bien.
Bonne soirée.
gentleman.